Dans ce monde de détresse et de crainte, y a-t-il quelque chose sur quoi les hommes puissent se baser pour être assurés que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Cette assurance se trouve-t-elle dans la Bible? Dans cette émission, nous attirons votre attention sur les promesses de Dieu quant à un lendemain meilleur. La première se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Ces programmes vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible qui publie la revue Aurore. Pierre, il y a actuellement des millions de gens qui ne savent sur quoi établir leur espoir. D'ailleurs, dans notre étude de la Genèse, la semaine dernière, nous avons trouvé que l'homme a été condamné à mort à cause du péché, sans grande espérance de changement à venir. N'en est-il pas ainsi?
C'est vrai, Thomas. Il ne peut y avoir de changement dans la destinée de l'homme s'il doit être apporté par ses propres efforts. À cause de sa désobéissance à la loi de Dieu, l'homme perdit le droit à la vie, et il est incapable de trouver un remède lui-même. D'autre part, Dieu pouvait faire quelque chose, et tout en condamnant Adam et Ève à la mort à cause de leur péché, il manifesta qu'il avait un plan, selon lequel il pourrait retrouver la vie.
Comment, Pierre, une telle chose est-elle indiquée dans la Genèse?
Pas exactement en ces termes. Mais dans la Genèse se trouvent bien des choses qui nous assurent que le Créateur n'a pas l'intention de permettre que l'humanité demeure à jamais dans la mort. La première allusion se trouve dans le troisième chapitre de la Genèse, verset 15. Veux-tu le lire, s'il te plaît?
Volontiers, Pierre. Voici le texte. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Pierre, cette affirmation est étrange, que veut-elle dire?
Si la Bible ne donnait pas d'autre indication à ce sujet, nous n'aurions pas pu saisir le sens de cette affirmation du Créateur. Cependant, à la lumière des promesses que la Bible donne par la suite, le texte que nous venons de lire constitue visiblement la première promesse faite par Dieu, en vue d'une délivrance d'une race mourante et maudite par le péché.
Eh bien, Pierre, ce texte parle de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire?
La postérité promise est en réalité le grand Messie de la Bible, l'être merveilleux que Dieu a promis d'envoyer, celui qui apportera la délivrance à l'humanité.
Pierre, je remarque que le texte dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, et la postérité du serpent blesserait le talon de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire?
Thomas, cette prophétie parle de la lutte séculaire entre les forces du bien et celles du mal. Comme nous l'avons appris dans une étude précédente, le serpent est en réalité le diable, le grand adversaire de Dieu et de l'homme, et de tout ce qui est juste et bon. Ce grand adversaire a continué à s'opposer à Dieu, montrant sa haine en termes de persécution contre le peuple de Dieu. Cette prophétie explique pourquoi la vérité a toujours été à l'échafaud et le mal toujours sur le trône. Ceci naturellement avec la permission divine, le Créateur désirant que sa création humaine apprenne, par une expérience tangible, les conséquences terribles de la désobéissance à ses lois, et que ceux qui ont déclaré l'aimer et le servir soient éprouvés quant à leur fidélité à Dieu.
Mais Pierre, il n'en sera pas toujours ainsi.
Naturellement pas.
Comment cela est-il indiqué dans la prophétie?
Remarque que la postérité du Seigneur sera seulement blessée au talon, tandis que la postérité du serpent est blessée à la tête. Une blessure au talon, à travers les siècles, a été douloureuse, mais non funeste. Finalement, le moment viendra où la postérité du serpent recevra une blessure mortelle à la tête, qui la détruira. Comme la Bible révèle plus tard, que le diable lui-même sera finalement détruit en même temps que tous ceux qui, de leur plein gré, seront unis à lui.
Pierre, tu tires beaucoup de choses de ce texte, mais comment pouvons-nous être sûrs que ce que tu dis est vrai?
Thomas, comme je l'ai dit, si nous n'avions pas d'autre révélation de Dieu concernant son plan pour l'humanité, nous ne pourrions pas être sûrs de la signification de ce texte. Ce n'est que lorsque nous suivons les suggestions se rapportant à ce texte, dans le reste de la Bible, que le sens devient clair et certain. Au fait, avant d'avoir terminé la Genèse, nous trouverons d'autres promesses de nature similaire.
Très bien, alors suivons cette idée de la postérité promise. Où la trouves-tu encore dans la Genèse?
Au chapitre 12, verset 3, une promesse faite à Abraham. Veux-tu la lire?
Mais oui. Voici le texte. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu dis que cette promesse fut faite à Abraham.
Oui, Abraham, tu le sais, fut le père de la nation juive. La promesse que tu as lue lui fut faite par l'Éternel au moment où, obéissant au Seigneur, il entra au pays de Canaan, la terre qui est maintenant à Israël, la Palestine. Mais ce que je voulais surtout que tu remarques, c'est que le Seigneur parle de nouveau de la postérité. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse fut encore répétée à Abraham, et finalement Dieu la confirma par un serment.
C'est vrai, mais au lieu de la postérité qui écrasera la tête du serpent, il est présenté une voie par laquelle viendront les bénédictions pour toutes les familles de la terre. Cela n'est-il pas entièrement différent de la première promesse?
Elle n'est pas différente, mais elle est plus vaste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu ne nous avait pas donné d'autres informations, après l'affirmation du Jardin d'Éden, on ne pourrait pas dire exactement ce que cela signifie. Mais en suivant ce thème à travers la Bible, le sens devient plus clair.
Il est vrai que l'idée de la bénédiction de toutes les familles de la terre se comprend mieux que l'écrasement de la tête du serpent. Mais Pierre, quelles sont toutes les familles de la terre qui reçoivent les bénédictions promises par Dieu grâce à la postérité d'Abraham?
Eh bien, je pense qu'Abraham, à qui cette promesse fut faite, crut que la promesse comprenait certainement toutes les familles de la terre qui vivaient à son époque.
Mais Pierre, de quelle façon furent-elles bénies? Toutes ces familles sont mortes.
C'est assez vrai. Mais ce fait éclaire le vrai sens de la promesse. Toutes les familles de la terre depuis l'époque d'Abraham sont aussi mortes. Et nous verrons plus tard que la Bible les englobe aussi dans les bénédictions promises.
Il me semble que cela rend la promesse encore plus difficile à comprendre.
Pas du tout, Thomas. Si nous prenons en considération le grand thème général de la résurrection dans la Bible. À mesure que nous continuerons notre étude de ces grands thèmes de la parole de Dieu, nous apprendrons que le Seigneur considère toutes les générations mortes comme simplement endormies. Et il nous assure que lorsque le moment voulu viendra, le pouvoir divin les réveillera du sommeil de la mort. C'est ainsi que lorsque Dieu fait ses promesses de bénédiction à l'humanité, ses promesses s'adressent vraiment à toute l'humanité, à Adam et à tous ses enfants.
Autrement dit, la mort n'empêche pas Dieu de réaliser ses plans d'amour envers la race déchue et mourante.
Non, Thomas, pas plus que le sommeil inconscient d'un enfant n'empêche l'épanouissement de l'amour de ses parents et leurs soins pour le lendemain.
Pierre, c'est merveilleux. Il est surprenant de voir que cette grande espérance du réveil du sommeil de la mort se trouve déjà donnée au commencement de la Bible. Quelle promesse merveilleuse trouve-t-on encore dans la Genèse?
Thomas, la Genèse est largement historique. Ce fait est désigné dans l'article « La création de l'homme et sa destinée finale ». Les chapitres 3 et 16 révèlent la marche descendante de l'humanité au cours de l'âge antédiluvien.
Ce monde se termina par le déluge, je crois.
C'est juste. Quelque temps après le déluge, le récit s'occupe surtout de la vie et des expériences d'Abraham et de ses descendants. En fait, les 17 premiers livres de la Bible sont en grande partie historiques, et les descendants d'Abraham, qui plus tard devinrent le peuple juif, forme pour ainsi dire le centre de tous ces livres. Tous ces faits historiques sont importants comme information de base pour comprendre le plan de salut de Dieu grâce à la postérité promise. L'article « La création de l'homme et sa destinée finale » donne un sommaire de ces 17 livres.
C'est bien, mais ces livres contiennent aussi d'autres promesses de Dieu au sujet de la bénédiction future de l'humanité, n'est-ce pas?
Certainement, Thomas. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, fut l'instrument par lequel Dieu donna une merveilleuse prophétie concernant la postérité qui apporterait les bénédictions. Jacob montre que cette postérité promise descendrait de son fils Judas. Genèse 49, verset 10. J'ai le texte ici dans ma Bible, si tu veux le lire, Thomas.
Merci. Voici ce texte. Le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Si je comprends bien, Shiloh sera la postérité promise qui alors bénira le peuple.
Oui, le mot Shiloh veut dire pacificateur. C'est l'un des titres que la Bible donne au grand Messie de la promesse. Et dans cette prophétie de Jacob, nous voyons de nouveau la nécessité d'un réveil du sommeil de la mort. Autrement, il ne pourrait s'assembler autour de Shiloh.
Tu ne fais que répéter cela, Pierre, et je crois que tu as raison. Mais y a-t-il une promesse dans un autre livre de la Bible qui montre sans aucun doute possible que les hommes doivent ressusciter d'entre les morts pour recevoir les bénédictions du Messie?
Oui, on la trouve dans la promesse faite par Dieu à Moïse.
Moïse fut celui qui conduisit les enfants d'Israël hors d'Égypte, les libérant de l'esclavage, et ce fut lui aussi qui leur donna les lois de Dieu.
C'est juste. Et dans Deutéronome 18, verset 18, tu trouveras la promesse que le Seigneur lui fit.
Voyons, Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Le Deutéronome est le cinquième livre de la Bible. Voici le passage. « Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. »
Tu remarqueras, Thomas, que dans cette promesse, le Seigneur dit qu'il suscitera un grand prophète pour les Israélites, que ce prophète viendrait d'une génération future d'Israélites, impliquant que les contemporains de Moïse seraient morts avant l'apparition de ce prophète. Cependant, selon la promesse, ils auraient l'occasion d'entendre ce grand prophète et de lui obéir.
Qui est ce prophète, Pierre?
C'est encore un titre que la Bible donne à la postérité de la promesse. Ce rédempteur promis non seulement donnera sa vie pour le peuple, mais il les instruira, leur donnera l'instruction, l'idée du bien. Mais nous en parlerons plus tard, Thomas. Veux-tu dire à nos amis ce qui en est de l'article « La création de l'homme et sa destinée finale »
Certainement, Pierre. Mes amis, voici une publication qui vous donnera un bon point de départ pour votre étude de la Bible. D'un langage simple, il présente un aperçu de la Bible et de ses nombreux livres, leurs rapports entre eux et les thèmes principaux de vérité qu'ils présentent. Demandez un exemplaire gratuit tout de suite. Il n'en sera plus parlé pendant assez longtemps. Aussi, demandez votre exemplaire gratuit. Qu'est-ce que l'âme? Quelle est la punition divine pour le péché? Y a-t-il une vie après la mort? Comment les promesses divines que nous trouvons dans les premiers livres de la Bible établissent-elles une espérance de résurrection d'entre les morts? Quel est l'enfer de la Bible? Quels sont ceux qui y vont à leur mort? Toutes ces questions vitales et bien d'autres reçoivent leur réponse dans ce livre « La création de l'homme et sa destinée finale ». Demandez-nous un exemplaire gratuit. Demandez le petit livre « Destinée ». Simplement, demandez « Destinée ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette émission vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.